Affaires étrangères, Christine Ockrent, France Culture, en partenariat avec le magazine Courrier International.
Bonjour à tous. Comme souvent avec le président Trump, il faut commencer par un tweet. J'ai eu une très bonne conversation au téléphone avec le président chinois, écrivait-il mardi dernier. On se verra longuement au Japon la semaine prochaine. C'est en effet au Japon, à Osaka, les 28 et 29 juin, que se réuniront les dirigeants du G20, des 20 pays les plus puissants du monde, où les réunions en coulisses seront, comme d'habitude, plus intéressantes que les discours déjà mis au point par les Sherpas. L'économie mondialisée fonctionne de telle manière que le tweet présidentiel a aussitôt mis en joie les marchés, mais l'inquiétude domine. La guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine, déclenchée il y a un an, n'a cessé de s'intensifier, plombant la croissance et ralentissant les échanges. Jusqu'où l'escalade entre les deux premières économies de la planète peut-elle mener ? Bagarre tarifaire, mais aussi lutte pour la suprématie mondiale en matière technologique, ce choc frontal entre deux politiques essentiellement nationalistes peut-il s'élargir à d'autres terrains stratégiques ? Quelles conséquences sur le plan intérieur, tant aux États-Unis où la campagne présidentielle est lancée, qu'en Chine où Xi Jinping, au lendemain du camouflet de Hong Kong, deviendrait la cible de quelques critiques au sommet du pouvoir. Quelle marge de manœuvre pour l'Europe, qui peine toujours à fédérer ses propres intérêts, serons-nous contraints de choisir entre deux systèmes dans une mondialisation devenue bipolaire ? C'est ce que nous allons explorer ce matin grâce à vous, François Godemant. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes historien, spécialiste de la Chine et de l'Asie, conseiller pour l'Asie à l'Institut Montaigne. Nous accueillons également Sébastien Jean, bonjour, directeur du Centre de recherche français dans le domaine de l'économie internationale, Alice Ekman, responsable des activités Chine à l'IFRI, professeur associé à Sciences Po Paris, Julien Nocetti, chercheur au Centre Russie de l'IFRI, lui aussi, spécialiste des stratégies numériques et cyber. Et puis j'ai eu l'occasion, samedi dernier, lors de son passage à Paris, d'interroger Graham Allison, politologue américain, professeur émérite à Harvard, qui a publié un ouvrage qui s'intitule « Vers la guerre, est-ce que la Chine et les États-Unis vont tomber dans ce qu'il appelle le piège de Thucydide ?» Avant d'en venir à Thucydide, grand historien, François Godemant, la guerre du Péloponnèse, 5e siècle avant Jésus-Christ, vous revenez de Washington. Est-ce que la conversation au sommet du pouvoir à Washington est obsédée par la Chine ?
Oui, c'est la priorité numéro un, c'est la plus discernable, en tous les cas dans une politique extérieure qui est parfois assez erratique. C'est celle où on trouve aussi un ensemble de compétences et d'alignements bureaucratiques qui essayent, si j'ose dire, de rationaliser le président Trump. En un sens de le maintenir dans le cap qu'il a lui-même adopté. Ce qui est évidemment pas évident tous les jours, puisque pour le comprendre, il vaut mieux comprendre la théorie des jeux que celle des choix rationnels. Il est absolument imprévisible et il s'en est en particulier vanté vis-à-vis de la Chine. Donc en un sens, si on pouvait le prévoir, la Chine aussi le ferait. Et le premier problème chinois, c'est qu'ils n'y arrivent pas, c'est qu'ils sont surpris, ils sont débordés. Je crois que c'est ça qui prédomine, mais il faut pas cacher le sentiment de souffrance à Washington de ceux qui endurent ces changements de cap et qui, même quand ils sont très élevés dans le pouvoir, ne sont pas nécessairement au courant de ceci avant qu'ils se produisent.
Le docteur Folamour du commerce, c'est le surnom que Pascal Lamy a donné au président américain, qui au fond fait des tarifs douaniers, un pas en avant, trois pas en arrière, enfin surtout trois pas en avant, un pas en arrière, et donc dans la panoplie qu'on ose qualifier de diplomatique, c'est véritablement pour lui un moyen de pression. On vient de le voir au sujet du Mexique. Alors il dit je fais pression sur le Mexique. Ah, ça marche. En fait, ils en reviennent pratiquement à un accord qui était déjà souscrit, mais ça lui permet de dire j'ai gagné et donc je continue.
Alors, il y a effectivement deux aspects, et d'ailleurs deux théories sur Trump. L'une, c'est que la seule chose qui vise, c'est la réélection. Et donc l'impact politique et qu'est-ce que sa décision va produire. Et de ce point de vue-là, on est obligé de constater que s'en prendre à la Chine n'est pas impopulaire, que ça marche pas mal. Des anecdotes frappantes, les fermiers qui cultivent du soja, qui sont les premiers frappés par les contre-mesures chinoises, ils ont voté Trump aux élections de l'automne dernier.
Le soja, donc principale exportation américaine vers la Chine.
De produits agricoles. Des travailleurs de l'acier qui vont se trouver en danger parce que leur entreprise dans l'Ohio est alimentée par de la matière première chinoise, si j'ose dire, et qu'il va y avoir des surtaxes, approuvent néanmoins la politique, même s'ils doivent se retrouver au chômage, parce qu'ils disent à long terme, c'est toute notre profession, toute notre activité qui est menacée. Donc il ne faut pas simplifier.
Il ne faut pas simplifier non plus du côté chinois. On a vu que le président Xi Jinping, au lendemain de ce qui a quand même été un camouflet à Hong Kong, où 1 million de personnes, puis 2 millions de personnes ont insisté sur le retrait définitif de ce projet de loi. Donc là, Xi Jinping est allé en Corée du Nord pour signifier qu'il gardait la main sur ce dossier-là.
Et il était en Asie centrale pendant les événements de Hong Kong, vis-à-vis desquels il a gardé une sage distance pour pouvoir les mettre sur le dos de l'administratrice déléguée, si j'ose dire, de l'ex-colonie.
Carrie Chum, ouais.
Mais ce qui est frappant quand même, moi, ce qui me frappe en Chine, c'est qu'au début, elle a beaucoup fanfaronné, mais la croissance est atteinte. Mais ce qu'on peut appeler l'opinion publique, c'est-à-dire en pratique l'appétit de consommation ou d'investissement, il est assez atteint au-delà des chiffres immédiats par les sanctions américaines. Donc de ce point de vue-là, à Washington, il y a en fait plus qu'on ne le croit un consensus, non pas sur la méthode, parce que personne ne peut comprendre ces changements de direction, mais sur l'objectif premier, qui est de faire du mal, qui est d'interrompre cette montée de la Chine par tous les moyens. Il y a pas mal de consensus en fait.
Sébastien Jean, cette escalade tarifaire qui fait du mal, on l'a vu en plusieurs étapes, la plus massive, si j'ose dire, étant au mois de mai dernier, où là, oui. Donald Trump annonce, si j'ai bien compris, 200 milliards de dollars de plus de surtaxes douanières et la Chine riposte en annonçant 60 milliards. Donc là, les négociations reprendraient à Osaka à la fin de la semaine prochaine?
Peut-être, on se perd en conjecture, enfin comme c'est dit à l'instant, avec un président qui se targue d'être imprévisible, je pense qu'il vaut mieux éviter d'essayer de faire une prédiction sur la reprise ou non la semaine prochaine. Mais effectivement, il faut bien garder en tête le fait que c'est très progressif ce processus. D'une part, il se passe longtemps entre la menace et la mise en application. Donc la menace, les premières annonces, disons, elles datent de mars 2018. Puis ensuite, première mesure en début juillet, ensuite un deuxième train fin août. Ensuite, fin septembre, ces 200 milliards sont taxés, mais à 10%. Et là, ce qui s'est passé en mai, c'est qu'ils ont passé les surtaxes de 10% à 25%. On commence à entrer dans le dur, honnêtement. C'est-à-dire que les premières salves étaient beaucoup plus limitées dans leur importance économique. Et d'ailleurs, si on regarde les statistiques, on voit que les importations américaines depuis la Chine en 2018, elles sont supérieures à celles de 2017. Hein. Donc, alors c'est compliqué, il y a beaucoup d'effets. Il y a notamment, par exemple, beaucoup de gens qui font des stocks énormément en se disant « Ouh là là, on va avoir des problèmes, on va avoir des surtaxes, vite, on apporte plus ». Donc, avant la mise en place des mesures, on a une augmentation des mesures. Voilà. Donc là, je crois qu'on entre dans le dur aujourd'hui, c'est-à-dire que véritablement l'impact commercial de ces mesures, on va commencer à le voir là. D'ailleurs, on le voit dans les statistiques les plus récentes, le fait que les importations courbent un peu. Mais quand il y a 10% de taxes, je veux dire, on peut l'absorber quand même finalement d'une façon ou d'une autre relativement bien. 25%, ça commence à faire beaucoup.
On peut même baisser les prix, ce que les entreprises chinoises ont fait.
Un peu, mais ce qu'ont montré les mesures, les études économiques, c'est que ça n'était pas le cas. C'est-à-dire que Trump, dans ses tweets, n'arrête pas de dire « ce sont les Chinois qui paient les taxes ». Absolument pas. Ça ne serait pas impossible, dans le principe. C'est-à-dire les exportateurs chinois pourraient dire « bon, ben, pour vendre quand même, je baisse mon prix ». Des études très détaillées ont été faites. Elles montrent que les exportateurs chinois n'ont pas du tout changé leur prix en moyenne. Ce sont les consommateurs américains qui ont payé la surtaxe, la taxe à l'importation. Donc, voilà. Mais simplement, ce qu'il faut voir aussi, c'est que dans beaucoup de cas, les Américains n'ont pas la possibilité de s'approvisionner ailleurs dans des conditions équivalentes. Donc, ils sont un peu prisonniers aussi.
Mais le mal essentiel, c'est désormais l'instabilité permanente. C'est-à-dire l'inverse d'un système qui était quand même relativement régulé.
Absolument. Il faut se rappeler que on parle beaucoup de l'entrée de la Chine à l'OMC. En fait, l'entrée de la Chine à l'OMC en 2001, le 11 décembre 2001 pour être précis, elle n'a pas baissé les droits de douane que lui appliquaient les pays développés. elle les a rendues prévisibles, stables. Et d'ailleurs, l'accord important qui avait précédé l'entrée de la Chine à l'OMC, c'était l'octroi par les États-Unis à la Chine du statut de relation commerciale normale de façon permanente. Et bien là, je pense que d'une certaine façon, le dommage est fait, c'est-à-dire Donald Trump a rendu ses relations anormales d'une façon permanente. Donc, peu importe à la limite ce qui sera décidé la semaine prochaine, je pense que économiquement, le signal est donné. Et ce signal, de plus en plus, côté américain, il se traduit par une tentation de vouloir atteindre un découplage entre l'économie américaine et l'économie chinoise. Or, on a vraiment quelque chose de complètement intriqué très étroitement. Si bien que ce découplage, je pense qu'à court terme, il est impossible, c'est beaucoup trop complexe. Et à long terme, il est devenu quasiment inévitable. Partiellement. Hein. Donc la question, c'est dans quelle mesure, d'une part, et d'autre part, à quel coût ?
Et c'est là où intervient Thucydide, puisque si l'on en croit la théorie que Graham Allison, qui entre autres a fondé la Kennedy School à Harvard, Graham Allison, donc dans ce livre qui vient d'être traduit chez Adil Jacob sous le titre « Vers la guerre, l'Amérique et la Chine dans le piège de Thucydide », s'appuie sur le grand historien grec, s'appuie sur la rivalité entre Sparte et Athènes pour prouver que entre une puissance installée et une puissance émergente, il ne peut y avoir d'autres scénarios qu'une confrontation et qu'une guerre. Voici ce que Graham Allison répondait samedi dernier à ma question. Est-ce qu'il y a véritablement une stratégie du côté de Donald Trump?
In general, this administration is not is better.
D'une façon générale, le gouvernement de Trump fait plus preuve de posture que de stratégie tenable. L'autre question, plus délicate d'ailleurs, et que vous posez en creux, est de savoir si quelqu'un peut proposer une stratégie à laquelle on pourrait se tenir, qui permettrait de relever ce défi de Thucydide et de proportionnalité, de manière à satisfaire d'une part les intérêts vitaux américains et d'autre part les intérêts vitaux chinois, et à éviter tout conflit. Voilà le défi.
Alors, côté chinois, est-ce que la Chine a une stratégie ?
Ils pensaient avoir une théorie dénommée « éveil pacifique ». Autrement dit, nous, nous menons notre éveil et vous, vous acceptez pacifiquement tout ce qu'il advient. Mais ça, ce n'est plus à l'ordre du jour. Et je pense que les Chinois ont été surpris de voir à quel point les Américains ont pris toute la mesure de l'éveil chinois et du fait que la Chine prend de plus en plus de place dans ce qui était traditionnellement le précaré des Américains. Leur surprise est d'autant plus grande que Trump exagère tout et exprime les choses avec l'art de la nuance qu'on lui connaît. Donc aujourd'hui, les Chinois sont interloqués quant à la façon dont les choses vont évoluer. Heureusement, ils savent, comme le savent tout le monde à Washington, c'est qu'une guerre, une véritable guerre sanglante entre les États-Unis et la Chine serait catastrophique pour chacune des deux parties. Donc moi, je n'ai vu personne à Washington qui pense que la guerre avec la Chine, c'est une bonne idée. Et par ailleurs, j'ai visité des académies militaires et je pense qu'il n'y a personne en Chine qui pense que la guerre avec les États-Unis serait une bonne chose.
Sébastien Zhang, vous nous disiez que ce sont pour le moment les consommateurs américains qui en fait subissent au premier chef le contre-coup de la politique tarifaire de leur président. Pour autant, on voit aussi, et c'est ce que rappelait François Godemont, que la clientèle électorale de Trump, qui coïncide pour partie avec ces mêmes consommateurs ou avec ces mêmes producteurs, agriculteurs ou donc soja ou acier, ces électeurs restent solidement arrimés à la casquette de Trump. Jusqu'à quel point est-ce que les entreprises américaines elles-mêmes sont inquiètes ?
Je trouve que c'est un des grands basculements auxquels on assiste depuis peut-être 2 ans, disons. C'est-à-dire que les entreprises américaines étaient traditionnellement très accrochées à la défense de la bonne relation entre les États-Unis et la Chine. Elles le sont encore, elles sont restées très critiques des manières de Donald Trump. Pour autant, Aujourd'hui, dans les milieux d'affaires, il y a un soutien assez fort à cette attitude de confrontation avec la Chine. Et ça, c'est assez nouveau. C'est très nouveau même. Parmi les démocrates, par exemple, c'est quelque chose qui était plus ancien, c'est quelque chose qui a été amené par Donald Trump principalement chez les républicains. Bon, et puis qui répond aussi, je crois, à une certaine colère profonde dans l'Amérique, non pas contre la Chine, mais contre la mondialisation, contre ce qui est vécu comme par les classes moyennes, comme le fait d'être un peu laissé pour compte du progrès, de l'enrichissement des plus aisés, etc. Et donc, il y a là-dedans, dans le récit que fait Trump de cette confrontation avec la Chine, quelque chose qui les interpelle profondément, d'autant que par ailleurs, il n'est pas avare, hein, à côté de ces coups de frein économiques éventuellement qu'il donne avec la politique commerciale, il n'est pas avare de coups d'accélérateur. La réforme fiscale, bon, ça, elle était plutôt pour les riches, les subventions pour les agriculteurs, hein, il a mis en œuvre des milliards de subventions pour compenser les pertes subies par les agriculteurs. Voilà, l'augmentation des dépenses budgétaires aussi, militaires en particulier, si bien que, d'ailleurs, c'est une des grandes explications pour le fait que la santé économique des États-Unis aujourd'hui est relativement bonne.
Mais il y a eu quand même un avertissement lancé par deux énormes entreprises, enfin, qui emploient beaucoup de monde, Target et Walmart, pour dire attention, ça va peser sur l'emploi et sur la croissance.
Bien sûr, donc la manière dont il s'y prend est évidemment quelque chose qui est assez clivant. Et puis par ailleurs, il y a des entreprises qui se sont bâties en grande partie sur les importations de Chine. C'est le cas de Walmart en particulier. Walmart, je ne me rappelle plus exactement, mais si on le classait comme un pays, si on le considérait comme un pays, ça serait, je crois, le 4 ou 5e importateur de denrées chinoises. Au moins, je ne garantis pas la précision, mais c'était de cet ordre-là. C'est énorme, les importations. Donc, c'est inscrit dans leur modèle. La consommation n'a pas pris.
Côté chinois, maintenant, jusqu'à quel point est-ce que la Chine peut enclencher des mesures de rétorsion en visant les points faibles de l'économie américaine? On connaît d'abord, évidemment, le cas des terres rares.
Oui. Alors, d'abord, il faut garder en tête que les mesures de rétorsion, on n'y gagne rien directement. Donc, c'est une sorte de duel où les cow-boys se tirent dans les pieds, quand même. Hein. En partie, au moins, parce qu'ils font aussi des dommages à l'autre. Mais enfin, donc, je dis ça pour clarifier le fait que la Chine n'a pas grand-chose à gagner, en soi, à faire à mettre en œuvre des représailles envers les États-Unis. Ils ont à gagner d'essayer de faire pression sur eux. Alors, quelles sont ces pressions? Il est vrai qu'elles sont assez limitées en termes de commerciaux directement et que le plus net jusqu'à présent, ça a été l'agriculture. Voilà, parce que l'agriculture, effectivement, ça fait des dommages pour les fermiers américains, c'est clair. Sur le manufacturier, c'est pas facile pour eux de se passer des semi-conducteurs américains, des avions, etc. Les voitures, c'est des Allemandes, en fait. Hein, voilà, c'est essentiellement des BMW ou des Mercedes qui sont vendus par les États-Unis en Chine. Donc, ils avaient mis les droits de douane, ils les ont enlevés. Enfin bon, clairement, ils peuvent jouer là-dessus. Maintenant, ce qu'il ne faut pas sous-estimer, c'est que la Chine a énormément de leviers pour faire mal, entre guillemets, aux États-Unis. Mais là, il est beaucoup plus efficace de s'en prendre à l'activité des multinationales américaines sur le sol chinois. Ça ne veut pas dire que ça fera du bien à la Chine, là non plus, hein. Mais ça fera potentiellement des dégâts, du mal aux États-Unis. Voilà.
Donc, qu'en est-il de l'arme financière? Parce que on entend certains dire du côté américain qu'au fond, il faudrait interdire l'accès au marché financier américain aux entreprises chinoises. Mais en face, la Chine est le premier créancier des États-Unis devant le Japon. Voilà. Et détient quoi, 1,3 trillion de dollars de bons du Trésor.
Oui, et donc en somme, elle en détient beaucoup trop pour en faire usage. C'est-à-dire que essayer de se retirer de ce marché des bons du Trésor américain, c'est impraticable pour la Chine, impraticable parce qu'il n'y a pas d'équivalent ailleurs, elle ne saurait pas quoi faire de cet argent. Et c'est dangereux avant tout, c'est dommageable avant tout pour elle, parce qu'elle ferait baisser la valeur de ce magot énorme qu'elle a placé aux États-Unis. Donc ça, vraiment, c'est impraticable et ça n'est pas dans l'intérêt de la Chine non plus, de même que la dévaluation d'ailleurs, parce que la Chine recherche la stabilité financière. C'est ça son intérêt. Donc je crois que là, il y a une arme qui n'est pas très discrète. Ils peuvent envoyer des signaux, ils l'ont fait d'ailleurs un peu, montrer qu'ils pourraient jouer un peu de façon déstabilisante. Mais je ne crois pas du tout à l'utilisation de cette arme macroéconomique. En revanche, la cotation des entreprises chinoises sur les marchés américains, là effectivement, je pense qu'elle va diminuer. Elle a commencé à le faire déjà et elle va effectivement se diminuer significativement.
Julien Nocetti, je rappelle que vous êtes à l'IFRI, spécialiste des interactions entre l'État et Internet. dans le cas de la Russie et de l'espace russe, mais plus globalement, vous vous intéressez beaucoup maintenant à cette rivalité de plus en plus évidente, de plus en plus exacerbée entre les États-Unis et la Chine. Est-ce que le vrai terrain d'affrontement, donc au-delà de la bagarre commerciale proprement dite, est-ce que c'est désormais la haute technologie et l'intelligence artificielle?
Alors, je dirais deux façons de voir les choses. Soit vous considérez que la technologie est subordonnée à toutes ces négociations commerciales qui ont lieu actuellement entre Pékin et Washington, et qu'au fond, Trump utilise ces dossiers technologiques comme un moyen pour peser sur les futures négociations avec Pékin, ou soit vous considérez, et c'est peut-être la position que j'ai, que il s'agit avant tout à Washington d'une question de maîtrise technologique et d'une crainte de se voir dépasser à terme par la Chine en matière de compétences et de savoir-faire technologique, en particulier dans les secteurs de pointe, qui ont d'ailleurs été définis par la direction chinoise, hein, comme dans son plan Made in China 2025, hein, de maîtrise technologique, que sont la 5G, l'intelligence artificielle, la robotique.
Donc la 5G, expliquez-nous, la 5G.
Les réseaux 5G, les futurs réseaux de télécommunications qui relieront entre eux les milliards d'objets connectés en particulier, et qui, du point de vue chinois, sont censés aussi traduire une sorte de fusion, hein, comme c'est le vocable utilisé, entre le civil et le militaire, qui auront aussi des conséquences très concrètes sur le plan militaire, précisément. Donc ça, c'est perçu avec une très grande crainte à Washington, parce que la Chine, aujourd'hui, se situe dans une ambition de maîtrise technologique décomplexée, et qu'à Washington, dans l'administration, au sein des think tanks et du complexe militaire industriel, il y a une forme de paranoïa, hein, de quasi-hystérie vis-à-vis de ces velléités chinoises de puissance numérique, et qui sont perçus avec une très grande anxiété. Et ça, c'est quelque chose qui ressort très clairement dans le discours de Trump, bien évidemment, mais aussi dans tous les travaux des experts américains.
Et il y a même un plan d'urgence nationale qui a été lancé aux États-Unis.
Alors, un plan d'urgence qui se traduit de plusieurs façons, à la fois de manière budgétaire et aussi par un rappel à l'ordre destiné à l'égard des grandes plateformes américaines, des grands géants technologiques qui, dans le cas de la 5G, c'est le cas Cisco, sont censés faire œuvre de rattrapage technologique et reprendre un peu de part de marché sur ce secteur, et également vis-à-vis des Google et consorts qui ont tous ouvert des laboratoires de coopération avec les Chinois, y compris en Chine, et qui sont concernés par le discours pour le moins martial de Trump vis-à-vis de ce pays. Donc ça, c'est quelque chose qui est aussi peut-être sous-estimé, la façon dont les GAFA, hein, pour faire très court, sont concernés de près par les décisions et la rhétorique trumpienne.
Parce que on n'en est plus du tout à la Chine fournisseur, j'allais dire simple fournisseur, notamment des terres rares. Donc c'est comment décrire ces matériaux qui sont indispensables pour fabriquer un certain nombre de composantes. Mais la Chine est désormais pratiquement leader, ou au moins sur le même plan que les États-Unis, en ce qui concerne les semi-conducteurs, par exemple.
Alors, la situation est peut-être un peu plus complexe, c'est-à-dire que les Américains disposent de plusieurs acteurs majeurs dans les semi-conducteurs, les Qualcomm, Broadcom, Intel, qui ont tous d'ailleurs des relations très compliquées avec l'administration de Trump et avec les Apple et consorts. Hein. Donc ça, c'est un paysage en bouleversement permanent qui mériterait une émission à part entière d'ailleurs.
Et ce sera pour la rentrée.
Et comment dirais-je, la Chine, elle, fabrique essentiellement ces composants qui sont ensuite exportés dans le monde entier, via aussi la collaboration d'une myriade de sous-traitants, le plus connu étant peut-être le britannique ARM, qui a été touché directement d'ailleurs par la décision de Trump, hein, et dont le PDG a pris la parole publiquement pour essayer de, comment dirais-je, de faire réfléchir, si je peux dire ainsi, la décision de la Maison Blanche. Mais tout ce secteur qui était jusqu'à présent obscur, hein, les semi-conducteurs, une industrie pourtant ultra mondialisée, est aujourd'hui sur le devant de la scène mondiale, a pris une dimension géopolitique absolument fondamentale, et aujourd'hui, je dirais, un des nerfs de la guerre chino-américaine, puisqu'avec les semi-conducteurs, c'est la matière critique, si vous voulez, des réseaux 5G, des smartphones, évidemment, et aussi de tous les de tous les réseaux de télécommunications avancées qui structureront notre économie à l'avenir. Donc ça, c'est quelque chose qui est tout à fait...
Il y a une entreprise chinoise qui à elle seule cristallise et symbolise toutes ces tensions, c'est Huawei, puisque les États-Unis ont déclaré que c'était un cas de sécurité nationale, donc l'administration Trump a interdit un certain nombre de protagonistes américains d'avoir affaire avec cette entreprise chinoise. Éric Scholl, bonjour. Courrier international, expliquez-nous comment et pourquoi Huawei en est venu à véritablement devenir le centre de cette tempête, de ce maelstrom.
Écoutez, en fait, la raison est assez simple. Cette entreprise de télécom est devenue, aux yeux du monde entier, le symbole de la nouvelle puissance chinoise qui suscite énormément d'inquiétudes. Le journal de Singapour, The Straits Times, a publié un portrait de cette entreprise et de son fondateur en racontant ses débuts en 1987, lorsque Ren Zhengfei, un ancien officier de l'armée chinoise, s'est associé avec une poignée d'amis pour créer la société Shenzhen Huawei Technologies. À l'époque, précise le journal, aucun d'entre eux n'avait d'expérience dans les affaires. La société vendait tout et n'importe quoi pour gagner de l'argent, des ballons, des alarmes incendies et même des compléments alimentaires. Un premier tournant a eu lieu à la fin des années 80 quand Zhengfei prend conscience de la demande croissante en commutateurs téléphoniques. Huawei effectue alors une percée dans ce secteur aidé, c'est vrai, par l'armée qui signe un contrat pour la construction d'un réseau national de télécommunications. 10 ans plus tard, poursuit le quotidien de Singapour, l'entreprise s'attaque aux marchés étrangers grâce à 10 milliards de dollars de prêts accordés par des banques publiques chinoises. Huawei casse des prix, gagne des parts de marché, se lance dans la fabrication de ses propres téléphones et aujourd'hui, explique le journal, l'entreprise compte 180 000 employés dans 170 pays. Son chiffre d'affaires a dépassé la barre des 100 milliards de dollars et ces dernières années, elle a régulièrement vendu plus de smartphones que, par exemple, Apple. C'est sans aucun doute l'une des plus grandes réussites chinoises, écrit le journalisme, et qui fait couler beaucoup d'encre, car depuis plusieurs mois, les États-Unis et leurs alliés font monter la pression sur ce groupe qu'ils soupçonnent d'espionnage et qui pourrait menacer la sécurité. Le mois dernier, Washington a franchi un nouveau cap en plaçant Huawei sur cette liste noire, lui coupant ainsi l'accès à la technologie américaine.
Et les soupçons de l'administration américaine sont-ils fondés ?
Écoutez, selon Via Atlantique, cette décision de couper les ailes de l'industriel chinois n'a en tout cas pas été prise à la légère. Il a été prouvé que l'importance croissante de Huawei pose de graves problèmes de sécurité aux États-Unis et à leurs alliés, explique le magazine en ligne. Ainsi, poursuit l'auteur, Huawei collabore avec le régime chinois dans ses efforts clandestins de collecte de renseignements. Via Atlantique cite l'exemple des équipements de Huawei qui avaient été installés au siège de l'Union africaine et qui fournissaient des informations à une ferme de serveurs installée à Shanghai, jusqu'à d'ailleurs que l'affaire soit révélée en 2017. De façon plus générale, écrit le journaliste, on s'inquiète depuis longtemps des lacunes de Huawei en matière de sécurité, une inquiétude que relève un récent rapport du gouvernement britannique cité par Via Atlantique. Si Huawei est à la pointe du matériel du réseau 5G, la sécurité de sa technologie est très très piètre, explique le journal. Un constat que les faucons occidentaux sur la Chine attribuent à une conception intentionnelle plutôt qu'à un manque de sophistication.
Et les conséquences de ce bras de fer, là ?
Ah bah, écoute, pour le moment, ce qu'on voit, c'est pour Huawei, que cet impact commercial est déjà très important. La société voit ses livraisons de téléphones chuter et s'attend à une chute de l'ordre de 40% pour les livraisons à l'étranger et à une baisse de ses revenus de 30 milliards de dollars dans les deux prochaines années. C'est un coup dur pour l'entreprise, détaille le site américain Bloomberg, mais c'est formidable pour la campagne de Huawei qui se présente comme victime de l'intimidation américaine. Et Bloomberg poursuit, l'entreprise de Shenzhen a même créé un compte Twitter pour partager, je cite, la vérité et les faits officiels sur Huawei. Selon un sondage chinois cité par CNN, Huawei reste d'ailleurs l'entreprise aujourd'hui la plus attractive auprès des étudiants chinois en Chine, devant ses rivaux Alibaba ou Tencent. Réciproquement, l'inscription du groupe chinois sur cette liste noire américaine risque d'augmenter sensiblement le coût des déploiements des réseaux 5G aux États-Unis et les entreprises américaines pourraient se trouver dans une situation nettement désagréable. très avantageuses relève via Atlantique. C'est d'autant plus vrai que Pékin a promis, on en parlait à l'instant, de mettre en place sa propre liste noire de sociétés étrangères non fiables. On arrive au bout de l'enchevêtrement des économies chinoises et américaines qui a défini les 20 dernières années. La Chine-Amérique touche à sa fin, ce qui signifie un douloureux ajustement pour les Chinois et pour les Américains, conclut Via Atlantique.
France Culture, Affaires étrangères.
Christine Ockrent.
Alice Ekman, on ne vous a pas encore entendu. Vous êtes responsable des activités Chine à l'IFRI. Vous enseignez à Sciences Po. Jusqu'à quel point est-ce que la manière dont le président américain a militarisé en quelque sorte les outils traditionnels de l'économie, donc les échanges, les tarifs douaniers, etc., il en fait véritablement une arme pour déstabiliser l'adversaire, en l'occurrence la Chine, jusqu'à quel point est-ce que cela veut dire que le duel est bien plus qu'un duel commercial et même technologique?
Ben vous le voyez bien, Christine, le choix technologique de Huawei, faut-il ou non déployer la 5G Huawei sur son territoire national, que ce soit en France, à Singapour, en Espagne, ça devient une question géopolitique. En tout cas, qui est interprétée comme telle à Washington et à Pékin. Plutôt un allié fiable ou plutôt un ami de la Chine. En tout cas, de plus en plus, ces questions technologiques deviennent géopolitiques. Et on voit réellement depuis ces derniers mois que les tensions ne sont pas uniquement commerciales. Elles sont, il faut le rappeler, vous avez parlé de Hong Kong, elles sont aussi géostratégiques en Asie-Pacifique. Il y a des tensions autour du détroit de Taïwan, au-delà de Hong Kong plus récemment, mais les tensions autour de Taïwan sont très fortes entre Washington et Pékin.
Et il y a eu d'ailleurs une prise de bec invraisemblable à Singapour, je crois que vous y étiez.
Oui, j'en étais témoin.
Le Shangri-La dialogue, alors racontez-nous.
Ben, j'ai l'occasion d'y assister depuis 3 ans et j'ai jamais vu une passe d'armes aussi forte entre les représentants américains et chinois, notamment autour de ce qu'on appelle le Taiwan Relation Act, c'est-à-dire donc un décret du Congrès américain qui stipule que les États-Unis soutiennent Taïwan, notamment en cas d'attaque. C'est pas aussi clair que ça, mais globalement, lors de son discours au Shangri-La Dialogue, Shanahan a vraiment souligné.
Alors Shanahan, qui était pressenti pour devenir le ministre de la Défense,
exactement.
Déjà il ne l'est plus.
Donc c'en est un autre. À l'époque, il représentait la délégation américaine. Il a fait référence à ce Taiwan Relation Act et aussi il a rappelé le soutien militaire des États-Unis à Taïwan. Et le lendemain, le représentant chinois Wei Fengrui, qui lui est toujours
le ministre de la Défense,
lui a repris ses propos pour souligner que l'acte, en tout cas la prise de parole américaine est totalement illégitime, et il a contre-attaqué directement point par point suite à ce discours. Donc on
mais
voit
surtout sur un ton, enfin oui. Tel que j'ai pu le lire.
Oui, alors
dans
après
la presse
ça, on peut aussi l'attribuer au ton de l'APL, l'Armée populaire de libération chinoise, et la façon de communiquer traditionnellement de ces généraux. Et c'est vrai que c'est très c'est très étonnant pour ceux qui ne baignent pas dans les types de communication de l'armée. Mais pour revenir vraiment aux tensions géostratégiques, donc il y a des oppositions sur le détroit de Taïwan, il y a des oppositions sur la mer de Chine du Sud, toujours très fortes. Et aussi, Chine et États-Unis sont diamétralement opposés quant à la façon de résoudre les tensions dans la péninsule coréenne, et notamment la crise nord-coréenne. Et aujourd'hui, on voit bien que la Chine ne peut pas être considérée comme un médiateur entre Pyongyang et Washington, compte tenu des tensions entre Pékin et Washington. Il y a une certaine proximité aujourd'hui entre Pyongyang et Pékin à relativiser, mais tout de même, ils ont des positions très différentes sur la péninsule coréenne. Donc, il y a des tensions commerciales, il y a des tensions géostratégiques, il y a aussi des tensions institutionnelle et conceptuelle. Pour être plus précise, lors du Shangri-La Dialogue, la délégation chinoise a décrié le concept d'alliance, le système d'alliance.
La Chine n'a pas d'allié,
elle compte pas signer de traité d'alliance demain, après-demain, dans 5 ans, dans 10 ans. Ce n'est pas son concept, elle considère que ce concept est illégitime. Et c'est pour ça que je suis, si je peux me permettre, en désaccord avec Graham Allison. La Chine a une stratégie d'élargissement de ce qu'elle appelle dans son cercle de pays amis. C'est-à-dire, c'est ne pas signer de traité d'alliance, mais de renforcer renforcer des partenariats économiques et stratégiques avec une diversité de pays par un plan ou un autre. Ça peut être les nouvelles routes de la soie, ça peut être le renforcement de partenariats technologiques comme avec la Russie par exemple, ça peut être aussi le renforcement de la conduite d'exercices militaires conjoints par exemple. En tout cas, elle souhaite...
Y compris avec des alliés des États-Unis, oui, c'est ça qui devient quand même très biscornu.
À relever vraiment aujourd'hui dans le discours chinois, c'est justement son ouverture, en tout cas en termes de communication. Elle dit, tout le monde est bienvenu dans notre cercle de pays amis. Vous êtes allié des États-Unis, il n'y a pas de souci, vous êtes bienvenu pour être un nouveau partenaire de la Chine. Et donc, dans ce contexte-là, il y a deux approches différentes. Les États-Unis aimeraient clarifier l'alliance. Êtes-vous nos alliés ou pas ? Il attend une clarification. Choisissez-vous Huawei ou non ? Signez-vous un accord cadre sur les nouvelles routes de la soie ou non ? Assistez-vous au forum des routes de la soie chinois ou non ? Donc il y a une demande de clarification. Et de l'autre côté, à côté de Pékin, il y a une volonté d'entretenir une certaine ambiguïté stratégique. Vous pouvez être l'un et l'autre, vous pouvez être alliés et partenaires. Et donc la question cruciale qui se pose à un nombre croissant de pays tiers, c'est-à-dire les pays qui ne sont pas États-Unis ou la Chine, c'est la question du choix. Doivent-ils choisir ? Notamment à l'heure où les choix technologiques deviennent géostratégiques, de plus en plus. Comment répondre à ces sollicitations alors que la diplomatie chinoise demeure réellement à l'initiative ? Elle est toujours force de proposition. Donc comment toujours répondre à ces propositions, à ces offres ? C'est une réelle question qui n'est plus uniquement en effet technologique, institutionnelle, qui est géostratégique compte tenu des perceptions mutuelles à Pékin et à Washington.
François Godemant, face à cette politique de vraie-fausse ouverture de la Chine, comment réagit Washington ? Enfin, vous qui connaissez admirablement les deux côtés.
Je suis heureux que vous parliez de vraie-fausse ouverture, parce que je suis désolé, mais dans le cours de cette émission, on a l'impression petit à petit qu'on a une Chine pacifique en intégration économique et commerciale, et puis un gêneur, sinon un fou, à Washington. C'est vraiment une vision très européenne. Très lié à nos petits différends démocratiques, si vous voulez, qui existent, hein, qu'il faut pas minimiser. Ils sont pas toujours petits, ils ont quelquefois des conséquences dommageables, mais aller en Asie, aller en Inde, aller au Japon, aller en Corée, aller à Taïwan, aller à Singapour, bon, personne ne va vous défendre les excentricités de Donald Trump, mais tout le monde va vous dire qu'il était temps qu'il y ait une réaction. Auparavant, c'était, si je puis dire, la politique du chien crevé au fil de l'eau. Pour parler très simplement, l'époque de la présidence Obama, qui aura mis 7 ou 8 ans à essayer de repenser sa politique chinoise, sans jamais la caler sur quoi que ce soit.
Autrement dit, les pays d'Asie d'abord, qui voient en fait une puissance américaine...
Mais ils sont demandeurs. S'ils sont inquiets, c'est bien sûr de l'inconséquence éventuelle et de revirement de la politique américaine. Tout comme les démocrates actuellement au Congrès, ils critiquent pas Trump pour ses tarifs... Tarifman ou pour ses excès, il critique à l'avance le risque qu'il risque de revenir en arrière soudainement en se rappelant que fondamentalement il est un promoteur immobilier qui signe des deals. Et c'est ça qu'ils ont. Mais il faut quand même se dire ce courant-là. La deuxième illusion, c'est de s'imaginer que l'Europe est une sorte d'Europe zen, cool, qui n'a pas de problèmes économiques, commerciaux ou d'ailleurs de droits de l'homme ou stratégiques avec la Chine et qui serait très gênée d'être coincée subitement par des États-Unis agressifs. Qu'a fait la Chine avec l'Europe ? Combien de négociations ont abouti depuis 10 ans ? Si l'Union européenne a fait le constat il y a quelques mois que la Chine était un concurrent stratégique et même un rival systémique, des mots assez forts, hein, parce qu'ils veulent dire que dans le cadre des institutions multinationales, de l'ONU par exemple, et même de l'OMC, on n'est pas d'accord. Mais c'est bien parce qu'elle avait fait ce constat par elle-même. Il y a 5 ans, pas mal d'économistes nous disaient « mais il faut reconnaître la Chine comme une économie de marché, d'abord c'est le libre-échange, ensuite c'est l'évolution de l'économie libérale, etc. » Aujourd'hui, non seulement on l'a pas reconnue, mais surtout la Chine a abandonné son procès à l'OMC tellement elle était sûre de le perdre. Donc il faudrait quand même arrêter, si vous voulez, les États-Unis traversent une crise de leadership, une crise psychologique, c'est très très clair, hein. Ils sont pas les seuls, je vous ferai remarquer. À la surface de la Terre, où il y a des hommes politiques soudains qui apparaissent. Regardez le Royaume-Uni, regardez le discrédit des politiques en Europe, en France, y compris en France. Il faut arrêter, si vous voulez, de juger des événements stratégiques d'après ces épiphénomènes. Moi, c'est ma première réaction.
Ce n'est pas ce que nous avons fait dans cette conversation jusqu'ici. Si j'ai bien compris, Alice Ekman décrit en fait une conception chinoise des rapports internationaux qui consiste à dire vous êtes peut-être les alliés militaires des États-Unis, mais nous vous offrons des formes de partenariat. Et vous, François Godemant, vous nous dites arrêtons d'être naïfs. Pourquoi ? Parce que la Chine a véritablement une vision disons, impériale, équivalente à celle des États-Unis.
Là où je réagis, c'est
quand
j'entends...
On n'a pas parlé d'Europe, hein, pour le moment.
Non, je sais. Là où je réagis, c'est quand j'entends la Chine force de proposition positive. Il y en a très peu. Il y a un enserrement aussi qui est assez important. Et si à Djibouti, il y a une énorme base chinoise, c'est parce que 88% de la dette est détenue par la Chine et parce qu'on veut d'ailleurs pas la payer à la place de la Chine. On a aussi, nous, une certaine indifférence. Hein. On n'est pas sur le tout stratégique. La Chine, elle, d'une certaine manière, elle y est. Si vous calculez la trajectoire, reparlons du cas Huawei, les dizaines de milliards de subventions, l'intégration très forte avec des objectifs stratégiques et militaires, ça existe. Ça
c'est d'ailleurs ce qu'Eric Scholl soulignait.
C'est ce qu'il soulignait, ça touchera absolument tous nos réseaux. On ne peut pas résumer ça à une guéguerre. Il y a eu une guéguerre américano-japonaise sur qui allait maîtriser
les semi-conducteurs.
Mais on s'efforce
précisément, François, de ne pas parler de guéguerre, mais de bien comprendre qu'on est dans une confrontation massive, frontale, décisive et qui va durer des années.
Décisive, je n'en sais rien, mais qui va durer des années, certainement.
Alice Ekman.
Oui, François, comme tu le sais, je n'ai pas utilisé le mot positive. Hein. Force de proposition positive, je n'ai pas parlé de positive. J'essaie d'analyser au mieux la stratégie chinoise. Il y a d'un côté une proposition d'alliance, de l'autre une contestation d'alliance, manifeste, officielle, effective. Comment les autres pays se positionnent vis-à-vis de cela ? C'est un choix stratégique qui émerge et qui est compliqué à analyser, mais c'est la réalité aujourd'hui. Ce que je voulais dire précisément, c'est que la Chine de Xi Jinping n'est plus la Chine de Deng Xiaoping. C'est-à-dire que la Chine de la diplomatie chinoise est très active, très à l'initiative. Elle propose tout le temps. Et donc, quand on propose tout le temps, ça pose un certain nombre de questions à un nombre croissant de pays. C'est-à-dire, faut-il ou non rejoindre la Banque asiatique d'investissement pour les infrastructures créée en 2014 par la Chine ? Oui ou non ? Ça a été une question posée à la France. C'est pas facile de répondre parce que ça a surpris beaucoup de monde. Faut-il rejoindre le forum sur les routes de la soie qui s'est tenu pour la deuxième fois il y a deux mois à Pékin ? Oui ou non ? Et à quel niveau ? Jean-Yves Le Drian y a été, Emmanuel Macron n'y a pas été. C'est une vraie question qui se pose aujourd'hui parce que la Chine propose beaucoup de choses. Et aujourd'hui, elle propose un type de partenariat de sécurité. Comment faut-il se positionner via cet type de partenariat ? Comment faut-il se positionner par rapport à la Huawei 5G ? Comment faut-il se positionner par rapport aux câbles sous-marins chinois, par rapport aux data centers ? Toute une série de questions qui se posent parce que la Chine est aujourd'hui à l'initiative. Elle n'en avait pas les moyens sous Deng Xiaoping en 80.
Je vous propose d'écouter précisément la manière dont Graham Allison, donc je rappelle que c'est un historien américain qui lui s'appuie sur l'histoire de l'Antiquité, sur Thucydide, pour essayer de comprendre si oui ou non les États-Unis et la Chine vont continuer de s'opposer, quitte à aller véritablement vers un duel militaire, si on le comprend bien. Je lui ai posé la question, qu'en est-il pour nous autres Européens ? Est-ce qu'on a une marge de manœuvre par rapport à ce duel qui se durcit de plus en plus. Graham Allison.
Comme de nombreux autres pays et régions, les Européens se disent « Oh là, attendez, on voit bien où ça va tout ça ». Et nos amis asiatiques nous l'indiquent depuis de nombreuses années. N'essayez pas de nous faire choisir entre notre relation avec vous, qui est nécessaire pour notre sécurité, et notre relation avec la Chine, notre relation économique, qui est essentielle pour notre prospérité. Nous ne pouvons pas choisir. Mais à mesure que cette situation s'intensifie, si elle s'intensifie, il n'y aura pas de terrain d'entente possible, à mon avis. À mon sens, il n'est pas judicieux de lancer un djihad contre la Chine, non. Néanmoins, il faut être conscient des poids respectifs des uns et des autres. Et nous en tenons à nos valeurs, ce qui est le cas des Européens et des Américains. Et bien, pour autant, nous ne sommes pas prêts à embrasser trop rapidement le système de valeurs chinois. Nous croyons à nos libertés individuelles, bien au-delà du pouvoir suprême du parti. Par conséquent, il faut trouver un moyen de réinventer, de redynamiser ce qui était des alliances traditionnelles, mais dans un cadre différent. Alors évidemment, on n'est pas dans une guerre froide contre l'Union soviétique. Ça, ce serait une métaphore un peu trop facile, un piège dans lequel il ne faut pas tomber. Aujourd'hui, la situation est radicalement différente, mais ce serait plausible que des partis qui partagent les mêmes intérêts, s'ils étaient astucieux et prêts à travailler ensemble, pourraient avancer. Malheureusement, le gouvernement de Trump semble préférer se mettre à dos nos alliés plutôt que de combattre nos rivaux.
Sébastien Jean, l'Europe, jusqu'à présent, subit-elle le contre-coup de ce duel commercial Chine-États-Unis?
Je pense que l'Europe est en train de réaliser que la relation avec la Chine ne peut plus être gérée dans le cadre juste de l'application de la règle. Pour reprendre le vocabulaire de l'excellent politiste Luc Van Middelaar, elle est obligée, sur les questions de partenariat avec la Chine, et commercial aussi d'ailleurs, de passer d'une politique de la règle à une politique de l'événement, c'est-à-dire de l'action, du leadership politique, de l'action politique. Dans cette communication qu'elle a faite sur la Chine il y a deux mois, ce qui m'a frappé aussi, c'est qu'il était écrit explicitement dedans, de la part de la Commission, les bonnes mesures à prendre vis-à-vis de la Chine sont du domaine du jugement politique et donc du ressort du Conseil. C'est assez rare que, c'était une façon de dire clairement maintenant, là, il y a un enjeu géopolitique qu'il faut gérer en tant que tel. Et là, effectivement, il s'agit pas de choisir notre camp, parce que de toute façon, entre la Chine et les États-Unis, il n'y a pas de question sur le camp qu'on choisirait si on doit choisir. Il s'agit de savoir si on doit choisir notre camp et dans quelle mesure on doit s'aligner avec les États-Unis ou bien essayer d'utiliser au mieux le fait qu'il y a beaucoup d'éléments sur lesquels on est vraiment aligné dans nos intérêts, dans l'appréciation qu'on a de la relation avec la Chine, et il y en a d'autres sur lesquelles, au contraire, on n'a pas les mêmes intérêts que les États-Unis. Donc, est-ce qu'on est en train de se laisser entraîner dans une bipolarisation de la mondialisation, au fond, ou est-ce qu'on arrive, nous, à exister européens en tant que tels? Mais pour ça, il faut une action politique décidée, et c'est très difficile en Europe, on le sait, à la cause du manque de cohésion politique.
Mais alors, justement, l'action politique étant vacillante, qu'en est-il sur le plan économique? On voit que l'euro, par exemple, est absent, parce que ce qui reste un outil majeur pour la puissance américaine, c'est le dollar.
Bien sûr.
Bon, l'euro, la zone euro est costaud, l'euro pourrait jouer un rôle...
Oui, alors... On appelle au renforcement du rôle international de l'euro. La vérité, c'est que depuis une douzaine d'années déjà, le rôle international de l'euro a décliné substantiellement sur tous les niveaux. Donc ça reste la deuxième monnaie au monde, mais aujourd'hui, il n'y a pas d'alternative au dollar. Donc il est possible, et il est même probable que d'une certaine façon, on arrive à une sorte de dispersion du système, une multipolarisation du système monétaire international, mais il n'y a pas d'alternative au dollar. En revanche, effectivement, on a besoin, nous, d'essayer de renforcer notamment le rôle de l'euro, et notre indépendance vis-à-vis des États-Unis sur les questions commerciales. On a bien vu notamment avec les sanctions et l'extraterritorialité des sanctions américaines qu'on est pris au piège de cette dépendance du dollar. Simplement, c'est très difficile et long à modifier.
Et on voit aussi dans le cas de Huawei que les États-Unis ne parviennent pas, Julien Nocetti, à imposer à leurs alliés les plus proches, même si, comme nous le savons tous et comme le rappelait Allison, Donald Trump a une fâcheuse tendance à traiter ses alliés traditionnels plus mal que les cibles qu'il se choisit selon les circonstances. Finalement, quels sont les pays qui se sont alignés et qui ont dit on refuse, on fera pas la 5G avec Huawei?
Alors, jusqu'à présent, c'était la plupart des membres des Five Eyes, cette coalition de pays autour de Washington, centrée sur le partage de renseignements, excepté le Royaume-Uni, qui là fait figure de, je ne sais pas des contre-exemples, mais de cas à part. Et j'ouvre une parenthèse, le Royaume-Uni ainsi que l'Allemagne ont été les deux pays que Trump a menacé de leur couper l'accès aux renseignements, ce qui est quand même un cas tout à fait notable.
Et quand on parle de renseignements, donc les Five Eyes, c'est la communauté... donc des grandes agences de renseignement, la CIA, MI6, MI5...
Voilà, l'Australie, Nouvelle-Zélande et le Canada, pardon, voilà, donc les cinq pays. Et jusqu'à présent, donc ces pays ont été relativement divisés, ce qui a pu profiter également à Pékin, de montrer qu'il y avait des positions de divergence au sein d'une coalition majeure, au sein du monde des renseignements. Et au-delà de ça, c'est surtout l'Europe qui est apparue extrêmement fragmentée. Puisque vous avez des positionnements alors parfois ambigus comme en Allemagne ou en France, ou très différents d'ailleurs entre ces deux pays, ou en France une très grande discrétion, en Allemagne certains débats publics et une très grande crainte de perdre au plan commercial avec Pékin, l'Europe centrale également qui est l'un des enjeux aussi de cette rivalité technologique sino-américaine, puisque vous avez une pénétration technologique chinoise tout à fait notable dans plusieurs pays d'Europe l'Europe centrale orientale, Bulgarie, Roumanie, République tchèque, Slovaquie, Hongrie, etc., Pologne, avec là aussi des divergences aussi vis-à-vis, divergences de perception vis-à-vis de cette menace chinoise, avec la Pologne qui a adopté évidemment, je dirais un ton extrêmement critique vis-à-vis de Huawei, en refusant d'équiper ses réseaux de technologie de l'opérateur chinois, et des contradictions en République tchèque, où là, au sein de l'exécutif, des divergences de vues entre Premier ministre et Président, même si les Américains ont organisé au printemps une grande réunion à Prague qui visait à convaincre l'ensemble des alliés européens de refuser des équipements Huawei. Donc il y a, jusqu'à présent, il y a pas eu de véritable force d'attraction, si vous voulez, de Washington vis-à-vis du positionnement adopté vis-à-vis de Huawei et la technologie chinoise. Et ça traduit bien les limites aussi de cette posture très particulière de Trump.
Mais est-ce qu'on va quand même de plus en plus vers la structuration du monde entre deux blocs technologiques qui, certes, pour le moment, sont très interdépendants, mais qui pourrait, François Godemont, aller vers, non pas une scission, mais
ce qu'on est en train d'entendre des deux derniers intervenants, c'est les difficultés de l'Europe.
Oui, mais c'était connaît, ma question.
Les difficultés. Mais le monde, il va bouger sans ça. C'est-à-dire que l'insuffisance d'Europe n'arrête pas le monde et ne condamne pas d'ailleurs le principe de l'Europe. Oui, bien sûr, les pays européens peuvent pas interdire Huawei pour toutes sortes de raisons. D'abord, ils peuvent pas s'aligner sur les États-Unis. Un président qui dit que, ma foi, au final, s'il y a une négociation commerciale, il pourrait mettre Huawei dedans. Je pense pas qu'il le fera, mais il pourrait. Donc, premier point. Deuxième point, on n'a pas les outils légaux. Vous êtes assez convaincant. Troisièmement,
parce que nous respectons la règle de droit, vous voulez dire.
Oui, on peut pas bannir une firme, une entreprise par elle-même comme ça, sans qu'il y ait par décret. Il faut qu'il y ait un accord, il faut qu'il y ait des sanctions internationales, il faut qu'il y ait quelque chose. C'est pas comme ça que ça va se passer. Mais quatrièmement, surtout, on n'est pas équipé. Nous, on aime bien favoriser le consommateur avec des tarifs très bas, que tout le monde aime, si bas que c'est difficile de financer des réseaux extrêmement coûteux, et les États aiment bien financer leur budget public. Même l'Allemagne, qui est un excédent public colossal, vend ses réseaux 5G par avance à des milliards et des milliards. Mais dans ces conditions, effectivement, Huawei subventionné d'abord, aidé, parce qu'il faut être juste, par les ventes de ses smartphones qui marchent très bien et qui continueront à être vendus un peu moins bien sans les logiciels américains, mais quand même, remporte le morceau. Mais ça ne discrédite pas les intentions américaines. Et le projet, je pense, derrière Trump, il y a des forces beaucoup plus fortes que lui et beaucoup plus durables, qui avaient commencé d'ailleurs avant Trump et qui se poursuivront avant lui, qui sont de dire on a assez donné à la Chine, elle n'a pas rendu, et il faut qu'on arrête ce système où on arme quelqu'un. Je suis désolé, lisez Xi Jinping. La pureté du parti, le marxiste-léninisme, le système communiste triomphera du système capitaliste. Regardez Hong Kong, regardez le Xinjiang. Si vous voulez, application d'ailleurs de toutes ces technologies. Je suis désolé, mais il y a une réaction qui, certes, dans la forme est très excentrique. Je ne vais pas défendre le porte-parole, mais le message, par contre, il est là.
Autrement dit, Alice Ekman, l'intuition de Donald Trump est fondée. Elle est d'ailleurs partagée par beaucoup d'Occidentaux. Lui s'est donné les armes commerciales d'abord de signifier en fait sa méfiance et son intention de limiter la manière dont la Chine, à travers les routes de la soie, etc., pénètre un peu partout dans le monde et singulièrement en Europe. Et trouvant d'ailleurs les fractures et les scissions et les zones de faiblesse de l'Europe. Est-ce que cela veut dire, une fois que ce constat est posé, que l'on va véritablement, encore une fois, vers un monde, une mondialisation à deux pôles, avec encore une interpénétration, mais de plus en plus un antagonisme entre ces deux pôles?
C'est tout à fait possible. C'est la question de la compatibilité des technologies qui se pose. Huawei et Android ne seront plus compatibles. Demain, peut-être d'autres technologies ne seront plus compatibles. Qu'il y ait plusieurs offres de mondialisation, d'offres d'infrastructures, de technologies, c'est tout à fait normal. Après, la question pour les pays tiers, c'est est-ce qu'ils pourraient utiliser l'un ou l'autre, passer de l'un à l'autre? Est-ce que c'est des choix définitifs? Et est-ce que, oui, nous allons vers une duplication des infrastructures, des normes, des institutions qui gèrent, qui supervisent la mondialisation? Le point de vue de Pékin, c'est de dire pendant trop longtemps, les institutions internationales, les infrastructures, les technologies ont été façonnées par les États-Unis ou globalement les puissances occidentales. Il est temps de créer les nôtres, non seulement comme des alternatives, mais les convertir à terme en référence, c'est-à-dire qu'elles deviennent majoritairement utilisées par un nombre croissant de pays.
Et à imposer aux pays tiers de choisir.
Un choix. En tout cas, ce choix se pose aujourd'hui aux pays tiers. Et cette question de la compétition technologique et de l'émergence de deux pôles de la mondialisation est intéressante et elle pourrait être posée en parallèle avec la guerre froide, toute proportion gardée. En effet, on ne s'oriente pas vers deux blocs fermés en autarcie, puisqu'aujourd'hui nous sommes à l'ère de la mondialisation et il existe une certaine interdépendance économique. Mais le point qu'évoquait Sébastien Jean sur le découplage, c'est-à-dire à terme la réduction de l'interdépendance économique des États-Unis et de la Chine, pourrait nous amener à plus long terme, pas dans l'immédiat, mais à plus long terme, à un scénario où la Chine a ses propres clients ou pays privilégiés pour développer ses infrastructures, ses services, les États-Unis également, l'Europe à voir si elle arrive à proposer son offre technologique ou pas dans certains secteurs. Aujourd'hui, il est quand même trop difficile, il reste difficile de le savoir. Mais l'émergence de deux pôles de mondialisation n'est pas, comment dire, irréaliste d'un point de vue technologique. En tout cas, aujourd'hui, sur certains secteurs, comme la 5G, comme la téléphonie mobile, nous voyons deux propositions qui ne deviennent plus compatibles. Donc, plus que jamais, ce sera la question de la compatibilité qui va se poser. Et de mon point de vue, si les tensions se renforcent, côté chinois, il y aura une volonté, oui, de proposer une alternative coûte que coûte.
Et de le proposer de façon de plus en plus pressante. Sébastien Jean, le mot de la fin, cela veut dire, pour en revenir au constat de François Godemont, que nous autres Européens, tant que nous ne nous mettons pas d'accord et tant que nous ne consacrons pas les moyens financiers nécessaires pour construire nos propres solutions ou répondre au cas par cas à un choix en fonction de nos propres intérêts, nous sommes prisonniers de ce duel qui s'intensifie.
Oui, la gestion de ces relations économiques devient un sujet stratégique dans lequel on va plus pouvoir se contenter de faire des rappels à la règle, aux accords passés, mais dans lequel on va devoir avoir une gestion des choix politiques mis en œuvre et qui seront nécessairement pragmatiques, et avec beaucoup de questions qui se posent. Qu'est-ce qui va devenir des institutions multilatérales qui existent parce qu'elles ont une véritable valeur? Qu'est-ce qui va devenir du système monétaire international? On l'a évoqué tout à l'heure, mais c'est une des grosses questions posées par cette perspective de peut-être bipolarisation ou multipolarisation de l'économie mondiale. Est-ce que la centralité du dollar va pouvoir résister à ça? Probablement pas à terme. Donc, ça crée une certaine instabilité qui est déjà là, je crois, maintenant.
Eh bien, merci. Merci à tous pour cette discussion passionnée, passionnante aussi. Merci à vous, François Godemont, conseiller pour l'Asie à l'Institut Montaigne. Vous avez publié avec Abigail Vasselier « La Chine à nos portes, une stratégie pour l'Europe » chez Odile Jacob en octobre dernier. Et vous publiez aussi une note sur la 5G, précisément, avec Mathieu Duchâtel, sur le site de l'Institut Montaigne. Merci à vous, Sébastien Jean, directeur du CEPI et directeur de recherche à l'INRA. Vos derniers papiers sur le site du CEPI, bien sûr, et votre site personnel. Alice Ekman, vous avez dirigé un ouvrage collectif publié en 2018 aux éditions CNRS sur la Chine dans le monde. Julien Nocetti, de l'IFRI, lui aussi. Vous avez dirigé le dossier cybersécurité pour la revue de l'IFRI Politique étrangère de l'été dernier et vous allez publier dans quelques jours un papier sur les répercussions de l'intelligence artificielle en politique internationale. C'est une note que vous avez faite, je crois, pour le Quai d'Orsay. Je remercie aussi Graham Allison, professeur émérite à Harvard, dont l'ouvrage vient d'être traduit en français et publié chez Odile Jacob, « Vers la guerre, l'Amérique et la Chine dans le piège de Thucydide ». Et merci à Xavier Combes pour l'avoir traduit. Merci à Eric Scholl, comme chaque semaine, à la réalisation ce matin, Luc-Jean Reynaud, à la technique Jean-Guilain Meige. Meryl Moneghetti a préparé cette émission, comme chaque semaine. Et comme chaque semaine, comme chaque samedi, voici Hervé Gardet. Très bon week-end, très bonne semaine.